and des chaînes, une émission, trois derniers lundis du mois. Des centres-villes saccagés, des patrons séquestrés, des ouvriers suicidés, des institutions saccagées, des actes de rébellion et des outrages, des solidarités actives, des symboles de nos misères attaquées, haine des chaînes, un écho des luttes et du désordre. Du premier maillon, l'école, la famille, au dernier maillon de l'enfermement, la prison, en passant par le travail, une émission pour briser toutes nos chaînes.
Ah, j'irai rire de voir ce monde s'écrouler. 88.4, sinon ndeschaine.free.fr pour écouter nos vieilles émissions.
Et à tout hasard, 04 91 08 28 10 ou 28 15.
Ndeschaine, 41 rue Jobin aussi pour le courrier. Nous sommes communicants ce soir.
Communicants. Monsieur fourmis dans les jambes. Monsieur Ray, de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Avec au programme ce soir, en dehors des brèves, un petit peu sur les longues peines, comme on vous en avait dit, et on y reviendra aussi dans deux semaines. Et voilà, et quelques nouvelles du monde en désordre. Bref en bref.
De brève en brève, on commence par les brèves.
Alors, pour commencer, on va revenir sur une nouvelle dont on avait parlé la semaine dernière à Villiers-le-Bel. Donc, je rappelle brièvement qu'en novembre 2007, il y avait eu deux jours d'émeute suite à la mort de deux ados dans une collision de leur moto avec une voiture de flic à un carrefour. Et donc, ce qu'on vous a dit la semaine dernière, c'est qu'il y avait cinq personnes qui étaient renvoyées en cour d'assises pour tir contre des policiers. Il y en a quatre qui ont des tentatives d'homicide volontaire sur agent de la force publique. Donc, il faut savoir que c'est un crime passible de la perpétuité. Et un qui est complice par fourniture de moyens. Et la nouvelle qui est tombée aujourd'hui, je crois, c'est que les deux policiers qui sont en cause donc dans la collision, ils ont obtenu un non-lieu aujourd'hui.
Comme d'hab.
Voilà. Donc, je ne vous détaille pas l'affaire, mais bien sûr, la famille fait appel, qui n'est pas du tout d'accord avec cette version. Quoi.
Ouais, voilà, ça rappelle aussi l'histoire du petit Nelson. Donc... dont le policier a pris un an avec sursis, et son collègue Makash Walou.
Ouais, et puis ça rappelle ce qui s'est passé hier soir à Fréjus, c'est-à-dire qu'il y a encore un jeune qui est mort pour éviter un contrôle de police. Et donc, pareil, la famille et les amis remettent en cause la version officielle et annoncent qu'ils vont faire une marche de soutien qui sera organisée mardi jusqu'au commissariat de Fréjus pour que les policiers s'expliquent publiquement. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Mais,
ce qu'ils feront jamais.
Voilà.
Donc Villiers-le-Bel, quand même, on les salue. Ils sont partis pour de longues peines. Ils sont quand même au départ une dizaine là-dedans sur cette histoire-là. Ils vont prendre des peines assez lourdes. Il y en a eu.
Ouais, il y a eu des fermes déjà.
Oui, oui, qui sont dedans surtout. Et donc qui avaient salué leur courage et leur solidarité à leurs camarades qui avaient été tués en attaquant de façon assez agressive nos ennemis, les policiers.
Et c'en était pour les brèves.
On peut parler de Berlin vite fait.
Ah, Berlin. Solidarité active.
Voilà, mercredi soir, un commissariat a été attaqué par un groupe et c'est une action qui a été revendiquée en soutien avec les incarcérés d'Athènes. Donc voilà, vitrine brisée, jet de fumigène dans le commissariat. Et...
ainsi qu'à Alfred Bonanno et son collègue grec qui sont incarcérés depuis deux semaines maintenant suite à tentative d'abraquage d'une banque locale.
Donc voilà, c'était les
brèves. Voilà, donc Bonanno, hein, mauvaise année pour Bonanno. Et sinon, donc, c'était pour vous dire qu'on vous avait parlé donc vendredi qui vient, il y a donc une réunion, débat autour des longues peines qui rentre dans le cadre de la semaine contre les longues peines, donc qui est pour le coup elle nationale. Et qui est donc pour la période du 2 au 8, de façon très marseillaise, ça se passera le 30 à Marseille. Au café équitable.
Au 56 cours Julien, dans le 6e.
56 cours Julien, où donc seront présents. Je vais peut-être commencer par lire l'appel.
Attends, juste le. Ouais, ouais.
Où je commence par lire l'appel. Voilà, on va commencer par l'appel, après les divers témoignages. Donc, ça c'est le texte d'appel donc, qui a été fait par l'ARPI, donc vous pouvez retrouver sur Internet, à RPPI.
Qui est l'Association pour le respect des proches de personnes incarcérées et qui est présidée par Catherine Charles, donc Catherine Kider, qui est la mère de Christophe Kider et de Cédric Kider. Sont incarcérés depuis très longtemps.
Ok, c'est sur @live.fr. Donc je vous lis. La peine de mort n'est pas abolie, elle est prononcée dans les tribunaux et appliquée dans les prisons. En 1789, la République considérait qu'une peine de plus de 10 ans d'emprisonnement était un châtiment plus cruel que la mort. Il est largement reconnu que, passé un certain temps, la longueur des peines, les quartiers d'isolement et les quartiers disciplinaires ne sont qu'acharnement, vengeance, destruction de l'individu. La semaine du 2 au 8 novembre 2009 doit être une semaine de résistance contre la mort lente des perpétuités et des longues peines. Une semaine de revendication pour les libérations médicales, les libérations conditionnelles, trois petits points. Abolition des longues peines, des peines de sûreté, de la rétention de sûreté. Abolition de l'intolérable peine de perpétuité. Abolition des mitards et des quartiers d'isolement. Fermeture pure et simple de ces lieux de destruction où les morts suspectes sont de plus en plus nombreuses. Libération de tous les prisonniers malades et handicapés, application du rapprochement familial et affinitaire, et non à la politique du tout répressif et à toute forme d'enfermement.
Donc dans cet appel, il y a aussi quelques témoignages qu'on va lire.
La prison tue. La prison tue les prisonniers condamnés à 15, 20, 30 ans de réclusion, les prisonniers condamnés à des peines incompressibles, les prisonniers condamnés à perpétuité. En 1981, les socialistes n'ont pas aboli la peine de mort, mais juste supprimé la guillotine. Ils ont remplacé la peine de mort par l'enfermement jusqu'à la mort. Jamais les peines prononcées par les cours d'assises n'ont été aussi lourdes. Jamais les aménagements de peine n'ont été aussi chiches, pour ne pas dire inexistants. Nouveau temps, nouvelles techniques, plus propres, plus efficaces, avec moins d'effusion de sang, mais tout aussi violentes et meurtrières. Des prisonniers de la centrale de Lannemezan.
La prison tue. Tue les prisonniers enfermés dans les quartiers d'isolement et dans les quartiers disciplinaires. L'obligation de se blinder pour encaisser tous les coups durs induits par la pression de l'isolement sépare les hommes en deux catégories. Ceux qui deviennent plus forts et ceux qui craquent. Résultat, les uns prennent des cachets et coulent à pic et les autres font peur à l'administration pénitentiaire parce qu'ils sont perçus comme inoxydables et en quête de vengeance. En résumé, il y a ceux qui combattent et ceux qui abdiquent. Les premiers ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les autres croient au pire des poisons existants, l'espoir. Christophe, depuis le cul de la santé.
La souffrance morale concerne toute personne détenue. Cependant, il semble qu'elle soit poussée à son paroxysme, à l'isolement. Cette souffrance a de multiples causes. L'exacerbation des contraintes carcérales, la monotonie, le poids des autres, trop présent ou trop absent, le manque d'intimité, l'absence de vie sociale, la perte de l'image et de l'estime de soi, la perte d'autonomie. Les isolés se retrouvent dépossédés de tout ce qui, normalement, donne un sens à la vie. Docteur Dominique Fauché.
La prison tue. Tue les prisonniers malades, même quand ils sont libérés juste avant. Mourir en prison est le sort le plus infâme que puisse vivre un être humain. Nous demandons que soit respecté le droit à mourir dignement, parmi les siens, hors du contexte carcéral. Justice et administration pénitentiaire sont coupables par ordonnance. L'État et ses représentants sont coupables de ces négligences assassines. La prison est un moyen de gestion de la précarité et de la pauvreté. Elle devient également un lieu de répression des maladies mentales et un mouroir pour des milliers de détenus atteints de maladies incurables. Libération des détenus atteints de maladies incurables. Des prisonniers de la centrale d'Arles en août 2001.
La prison suicide de plus en plus de prisonniers. Le suicide ne peut pas être le fait d'une désespérance. Il est le résultat des pressions subies au quotidien, sans possibilité de s'en défendre. La prison, qui soustrait au regard et au contrôle démocratique, permet toutes les formes d'arbitraire. Des femmes, des hommes sont humiliés, interdits, niés dans leur volonté déshumanisée. Cela a pour conséquence le taux important de suicide en prison. C'est signé une prisonnière de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis.
La prison tue une génération de jeunes. Le système a compris que les mômes avaient compris, que les discours rassurants, ça ne marchait pas. Donc la réponse, vu l'absence des perspectives, c'est de recréer les centres fermés, de construire les nouvelles prisons, de régler les problèmes sociaux par l'enfermement. Le pouvoir sait que ces mômes sont une génération perdue, il n'a rien à leur proposer, donc il doit gérer le problème. Et quand on sait qu'en plus, l'enfermement rapporte, un prisonnier de la centrale de sa mort.
La prison tue les proches et les familles des prisonniers. Nous sommes condamnés par l'ombre des barreaux de ceux qui sont des nôtres. La distance qui me sépare de 40 minutes de parloir, l'appréhension qui me talonne parce que la prison, justement, c'est la prison. 7 ou 8 décès en un an, 7 ou 8 proches de prisonniers suicidés, dont on entend si peu parler dans les colonnes de la grande presse. Tout ça, et puis le reste. Les obligations courantes, le boulot, le manque de fric, les dettes en suspens, autant de barreaux invisibles, intérieurs, qu'on n'appelle pas par leur nom pour éviter de flancher. Une mère de prisonniers.
Donc voilà, cette soirée, donc on vous répète, qui aura lieu le 30 de ce mois-ci.
Ce vendredi, là,
carrément. Donc vendredi qui vient.
À 19h.
19h à...
L'Équitable Café.
Tout à fait. Et donc ce sera en présence de Hafen Belotman, dont on vous a parlé plusieurs fois, qui est donc co-écrivain dans L'Envolée. Donc le journal dont on vous a souvent parlé et qui organise en partie avec l'ARPI cette semaine anticarcérale et qui sera pour eux l'occasion de sortir un tas de témoignages. Et d'ailleurs, Afen Ben Othman, qu'on avait déjà invité aussi à Marseille, va nous raconter sa première nuit de prison. De suite, Afen Ben Othman.
En prison.
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 Je m'appelle Afed Ben Othman et la première fois que je suis entré en prison, c'était en juin 76, au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, à l'âge de 16 ans. Je suis arrivé en pleine nuit à la prison de Fleury-Mérogis, j'ai été accueilli par les aboiements des surveillants et j'ai été placé de suite dans une cellule seule. J'ai pensé que j'avais enfin ma chambre, donc ça a été une espèce de soulagement. Je m'y suis trouvé bien. J'étais seul. J'ai pas vu que la porte s'ouvrait pas de l'intérieur. J'ai pas fait attention à ça. J'ai vu qu'il y avait des barreaux, évidemment. J'ai vu qu'il y avait un lit en ferraille, que la cellule était pas très très clean, mais plutôt propre. Et là, je me suis fait piéger parce que je suis rentré dans une espèce de film où enfin j'avais ma chambre, mon indépendance, et j'ai pu allumer une cigarette que j'avais taxée au dépôt à des gens plus âgés. J'ai pu allumer une cigarette et fumer dans ma chambre sans être obligé de me cacher ou de ventiler ou de manger des chewing-gums. Donc le piège qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai fait l'association entre la liberté et la prison, et je m'y suis trouvé bien avant que le piège se ferme. Je me souviens que la première chose que j'ai fait quand j'étais en cellule, ça a été une masturbation. Ça a été une branlette. Et c'est étrange, mais c'était une façon de marquer le territoire. En disant, si je peux bander ici, si je peux jouir ici, je pourrais bander et jouir dans n'importe quel lieu du monde. J'ai été réveillé par le bruit. Le fait qu'il ait ouvert la porte avec cette violence-là, le son m'est passé par les pieds, par la plante des pieds. Mais concrètement, c'est pas du tout une image ou un symbole, c'est concrètement. Voilà, j'ai l'impression qu'on ouvrait le foie, les poumons, les machins, hop, et que le corps se réveille et que c'est ce corps-là qui est là. Et cette violence-là, c'est là où j'ai compris que c'était une prison et que c'était pas du tout une chambre d'accueil d'hôtes ou c'était pas papa maman qui était là.
Ma première nuit en prison.
Voilà, c'était donc le témoignage d'Afed Ben Othman, sa première nuit en prison. Et deuxième invité donc, de cette soirée pour l'abolition des longues peines, c'est donc Catherine Charles, ou Catherine Kider, ça dépend, voilà, Catherine, qui est la présidente de l'ARPI, donc l'Association pour le respect des proches de personnes incarcérées, et qui est aussi mère de détenus longues peines, et qui nous raconte aussi sa première nuit passée derrière les barreaux à Fleury-Mérogis.
En prison.
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 Je m'appelle Claude-Charles Catherine. Ma première nuit en prison, c'était en 78, je crois. C'était à Fleury-Mérogis. À l'époque, je me défonçais. Donc, je suis arrivé dans un état incroyable. Je suis rentré en prison, en fait, pour une demi-barrette de shit. Et la juge a décidé que c'était le bon endroit pour décrocher de la cam. La première nuit, c'est le choc. On est dans un espèce de choc, de séisme émotionnel. Donc tout se mélange et c'est un magma d'émotions qui déstabilise et qui font mal surtout. Et ça te fait mal jusqu'au fond de tes tripes, quoi. Je me suis réveillé le matin de la première nuit avec un cocard. Réveillé, j'ai dû m'assoupir le matin. Je me suis réveillé avec un cocard parce que j'avais tellement bougé, j'étais tellement malade du manque d'héroïne que j'ai dû me cogner. Et ce qui m'a choqué le matin, c'est il y avait une fille dans la cellule avec moi. Elle appelait tout doucement, il y a un interphone à Fleury, il y a un interphone, et elle appelait tout doucement, elle appelait la surveillante pour dire je veux pas rester dans cette cellule, elle est malade, elle avait dû me voir bouger, et ça m'avait choqué, j'arrivais pas à bouger, j'étais dans mon lit, j'étais tétanisé. J'avais l'impression d'être dans un caisson, un caisson métallique et qu'on m'empêchait de respirer, que je pourrais plus jamais respirer. J'ai eu l'impression d'être en apnée à ce moment-là. Je commençais une longue apnée. Tout est oppressant. L'impression que, je sais pas, l'écume des jours, la pièce qui se referme sur toi. Toujours l'odeur. Moi, c'est l'odeur. À chaque fois, c'est l'odeur. Et aussi cette misère silencieuse, une misère insidieuse de personnes qui se taisent, qui subissent ou qui hurlent. Personne qui venait, personne répondait à cette aux appels. Et ça m'a beaucoup marqué.
Ma première nuit en prison.
Voilà, donc c'était Catherine Charles et Afed Ben Othman, donc deux témoignages des personnes qui seront présentes vendredi soir à l'Équitable Café, donc pour un débat qui s'appelle « Prison, les longues peines, nouvelles formes de peine de mort ». Et les montages, vous pouvez les trouver sur Internet. Il y a d'autres personnes qui témoignent de leur première nuit en prison et de leur dernière nuit. Et on l'a trouvé sur...
L'écho des cabanes, qui est l'émission de Catherine à Paris sur Radio Libertaire. Voilà.
Donc voilà, on vous rappelle et on vous invite donc largement à venir. C'est donc à l'Équitable Café, vendredi à venir, à partir de 19h. À partir de 19h.
L'Équitable Café, c'est au cours Julien, pour ceux qui ne savent pas.
56 cours Julien. Et donc, en la présence pour ce débat, donc pour poser toutes vos questions sur le sujet donc de Afed Ben Othman, qui va donc maintenant nous raconter sa dernière nuit de prison.
En prison.
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 Je m'appelle Afed Ben Othman. Ma dernière nuit en prison, c'est le mercredi du jour de l'élection de Sarkozy. Je sors le même jour de la prison de Fresnes. Et ma dernière nuit en prison a été une nuit à 47 ans, une nuit de fou rire. De fou rire parce que je devais sortir la veille et j'ai refusé de sortir la veille. J'ai fait un jour une nuit de prison en plus et cette nuit-là a été choisie. Pour des raisons bêtement matérielles, c'est que je voulais confier ce qui est la coutume carcérale, je voulais laisser mes affaires à mes amis. Qui mes chaussures, qui mon ordinateur, qui mes bouquins, qui... voilà. Et quand on m'a dit de faire le pactage, puisque j'ai eu quasiment une libération immédiate, vu que je suis passé en cour d'assises et que j'ai été condamné à une peine qui couvrait ma préventive, donc j'ai demandé au surveillant chef, j'ai dit écoutez, voilà, j'ai mes affaires et je voudrais laisser ça à un tel, en mettant des post-it sur chaque chose. Le surveillant a eu un sourire ironique en me disant mais bien sûr Ben Othman, bien sûr, on leur donnera. Mais on leur donnera, c'était comme un jeune comédien qui passe une audition, on vous écrira. Et je l'ai regardé et j'ai dit je sortirai demain. Ils me disent c'est pas possible, vous sortez aujourd'hui. Je fais non, je sortirai demain parce que quand on est indigent, on a le droit de passer une dernière nuit en prison. C'est la loi. Donc je sortirai demain. Ce qui fait que j'ai passé la journée à amener à chaque ami son petit héritage. Quand je suis sorti, j'ai un ami à qui je n'ai rien laissé. Et je lui ai dit à l'oreille, nous avons une amie visiteuse de prison. C'est elle que je te laisse en cadeau. C'est-à-dire on fait cadeau aussi de l'autre. J'ai passé la dernière nuit dans le fou rire et dans la bonne humeur parce que les amis savaient que j'étais resté une nuit de plus pour ça. Et la fraternité, ça vaut bien la liberté. Alors ma dernière nuit, je ne mange pas. Je ne mange pas pour une raison encore matérielle, c'est que j'ai donné tous mes moyens, mes ustensiles de cuisine à un copain.
Ma dernière nuit
en prison.
Prison.
Et maintenant, on va vous passer le témoignage de la dernière nuit de prison de Catherine Charles.
En prison.
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 Je m'appelle Claude Charles Catherine. J'aurai 56 ans le 11 septembre prochain, c'était à Fleury-Mérogis, j'avais une trentaine d'années. Je m'y attendais vraiment pas. On m'appelle dans l'interphone, il y a des interphones, et on me dit « Préparez votre pactage, vous êtes libérable ». Il était 11h30, minuit moins le quart. Et j'y croyais pas. Je rappelle la surveillante, je lui dis, si vous n'avez trouvé que moi pour faire ce genre de blague, vous êtes mal tombé. Et elle me dit, préparez votre paquetage. Et là, je deviens complètement idiote quand je comprends que c'est la réalité. Je ne sais plus où sont mes affaires. Je suis incapable de ranger, d'abord de réfléchir, d'avoir deux idées cohérentes. Et la nana qui est avec moi dans la cellule, c'est elle qui est obligée de me ranger toutes mes affaires. Je suis, mais comme si on m'a mis une camisole et que je suis incapable de coordonner mes mouvements. Je me souviens d'avoir laissé cette petite nana qui se vidait de son sang, en fait, ma co-cellulaire, elle se vidait de son sang. Elle avait des règles qui n'en finissaient pas, alors que en prison, faut savoir que en général, on a toutes nos règles en même temps et elles se tarissent toutes en même temps en général. C'est le tarissement de la vie pour beaucoup de femmes. L'a laissée là. J'avais l'impression de commettre quelque chose d'irréparable, de l'ordre de l'abandon, de casser un truc d'amitié, presque. À ce moment-là, j'étais partagé entre « je veux rester ». C'était elle qui m'a dit « non mais vas-y, voilà, toutes les nanas qui tapaient dans la porte, je m'en souviens, Catherine, tout, voilà, c'était énorme ». Et je me souviens que j'avais emprunté un stylo à une nana, et qu'il était hors de question que je parte avec son stylo, et que les surveillantes ne veulent pas ouvrir la porte. Et là, elles avaient les clés, puisqu'elles m'avaient ouvert à moi. Eh ben, j'ai refusé de sortir tant que j'avais pas rendu le stylo. C'est bête, ça paraît tout bête, mais les personnes qui sont en prison, elles comprendront aisément de quoi je parle. Et j'ai réussi à faire ouvrir la porte et à faire donner le stylo.
Ma dernière nuit...
En prison.
Prison.
Donc voilà, ça sera une soirée pour bien montrer que la peine de mort a jamais été abolie en France, jusqu'elle a changé de forme. Et aussi un petit mot sur les longues peines, parce que donc abolition des longues peines, ça pose aussi la question de l'abolition de l'anticarcérale ou l'abolition de la prison. Comment se poser par rapport à cette question? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est considéré comme longue peine, eh ben, est assez subjectif. En France, on est considéré comme longue peine à partir de 5 ans. En Suède, c'est à partir de 6 mois. Aux États-Unis, c'est à partir de 8 ans. Et bref, que donc ça peut être une notion qui veut tout dire et qui en même temps veut pas dire grand chose selon les individus. Il y en a certains qui peuvent y mourir en un mois, comme d'autres qui peuvent en ressortir au bout de 40 ans vivants mais ravagés, assez ruinés. Et voilà, puis c'est une lutte qui existe depuis très longtemps maintenant. On se souvient en 2001, pour les 20 ans justement de la pseudo-abolition de la peine de mort, qu'il y avait eu un communiqué clandestin des prisonniers de la centrale d'Arles, qu'on a déjà beaucoup passé sur l'émission et dans des lieux publics et autres, que vous pouvez vous procurer sur plusieurs sites, dont le journal L'Envolé. Qu'il y a eu aussi l'appel de Clairvaux, des prisonniers de Clairvaux de la centrale, qui réclamaient la peine de mort immédiate en 2003, et une lutte en Italie l'année dernière où ils ont mis en place une grève de la faim, où eux, en fait, sur leur papier de détention, il y a écrit fin de détention, jour 99 du mois 99 de l'année 9999. Et que voilà, les gens crèvent en tôle tous les jours, et que nous, dans 2 semaines, et on fera une émission sur la peine, parce qu'on considère que la peine commence à la garde à vue.
Parce que j'ai flingué la gangrène, je me suis jamais laissé enterrer. J'ai pas eu de remise de peine et je suis jamais dans le bon quartier. La sécurité me malmène, déjà je suis pas bien disposé. Ils nous traitent tous comme des chiennes alors que c'est à peine nos portiers. La zone me baisse, pas de veine, on penserait à se les tailler. Mais ça leur fait plaisir qu'on les craigne, alors je m'accroche et je vais purger mes angoisses et mes haines et mes émeutes légitimes. Et si demain on me retrouve raide, allongé ou pendu ou du sang dans l'évier, sache que tous ici on crève et je serai ni le premier ni le dernier.
Et un dernier témoignage pour finir en beauté sur ce thème, qui est un témoignage d'un prisonnier qui s'appelle José, qui est sorti dans un bouquin qui s'appelle Parole de détenu, il y a de ça assez longtemps. Voilà, sur la musique de Midnight Express.
Soyez persuadés que j'aurais vraiment voulu être raccourci, tant pour ce que j'ai fait que pour la perspective qui s'ouvrait devant moi. Comment concevoir passer toute sa vie, et ce à 22 ans, entre des murs qui vont se rapprocher de plus en plus avec le temps? L'arbitraire du monde carcéral, les envies suicidaires qui vont se succéder, les fouilles à corps, les coups, les insultes, les frustrations, les humiliations, l'avilissement, les haines qui s'accentuent, les chaînes, les mitards, les humeurs des gardiens, leur besoin de se satisfaire sur nous, leur sarcasme, leur provocation, les conflits avec les autres détenus, les mensonges, l'hypocrisie et dissimulation en tout genre, la parano, sa misère et celle des autres, les odeurs, les bruits étouffés, les cris, les pleurs, la folie qui guette, la libido qui fout le camp, la masturbation, la bouffe, les maladies, le morbide, les tentations, les cauchemars, les nuits blanches, les déceptions, les amitiés balourdes, les trahisons, l'indifférence amplifiée, l'ostracisme, le racisme des matons et des détenus, la peur au ventre, la honte, les envies de chier, le mal de dents, les maux de tête, les cachets, le pet, la déraison, l'abandon, l'oubli de ce qu'on a été, les revanches avortées, les colères, les punitions, l'infantilisation, l'irresponsabilité, l'assistanat, l'enracinement végétal, les balades en fourgon, les menottes, les instructions, le jugement, les bagarres, l'accusation, les pensées morbides, les 100 000 pas, les regards indiscrets, les illusions d'évasion, le soir, la nuit, la pénombre, l'attente. Combien de sensations ai-je oubliées ? S'apercevoir que se dessine un tel avenir ne demande-t-il pas de réfléchir sérieusement à sa mort ? Qui peut s'en soucier ? Il s'agit de moi et j'en parle à ma façon, en souffrant de ne plus rien regretter, de me dire qu'est-ce qui peut bien m'arriver après tout ça ? J'ai envie malgré tout, et comme le reste ne le regrette pas. Ainsi, c'est donner raison à ceux qui pensent que la peine de mort est inhumaine et contraire à la vie. Pourtant, messieurs, dames, il y a au fond de vos prisons des individus qui auraient souhaité la condamnation suprême pour ne plus vivre le calvaire de se réveiller chaque matin, les yeux bloqués par les barreaux, l'œil ton rivé sur leur cul et les piteuses érections. C'est chaque jour s'enfoncer un peu plus en soi, et si on n'y fait pas gaffe, c'est se bouffer le moral pour n'être qu'un légume qui s'alimente et se vide, pour découvrir finalement qu'on n'est plus rien. Qu'y a-t-il de pire que cela ? N'être rien, ne servir à rien et en avoir conscience. C'est donner un argument de poids à tous ceux qui étaient contre l'abolition de la peine de mort, de savourer leur erreur d'avoir pensé cela. L'homme, à se recroqueviller, finit par puer de l'intérieur. Mortifère son peine, son peine, son peine.
Musique.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Voilà, c'était un son de Johnny Cash qui jouait en direct dans la prison de Saint-Quentin, la centrale, qui est une centrale aux États-Unis assez connue pour ses horreurs, un soir de février 1969, sachant que lui avait passé quelques années incarcéré en 1963. Donc on va vous traduire les paroles.
Et voilà, on entendait bien derrière crier tous les détenus par rapport à son texte qui dit « Saint-Quentin, pour moi, tu es l'enfer sur terre. C'est en 63 que je suis rentré. J'en ai vu arriver et partir, et j'en ai vu mourir. Et ça fait longtemps que je demande plus pourquoi. Saint-Quentin, je hais chaque millimètre carré de toi. Tu m'as tailladé et marqué pour toujours. Je te quitterai plus sage et plus faible. Monsieur le député, pourquoi ne comprends-tu pas cela? Saint-Quentin, qu'est-ce que tu crois? Faire le bien? Crois-tu que j'aurai changé quand tu en auras fini avec moi? Tu as fait plier mon cœur, mon esprit, et tu as exploité mon âme. Et tes murs de pierre ont refroidi mon sang. Saint-Quentin, puisses-tu pourrir et brûler en enfer? Puissent tes murs tomber et que je vive assez pour le raconter? Que le monde oublie jusqu'à ton existence et que le monde regrette que tu n'aies rien fait de bon? Saint-Quentin, pour moi, tu es l'enfer sur terre.
C'est beau comme une prison qui brûle. Et donc, finir sur la rubrique anticarcérale, nous allons vous parler un peu de ce qui se passe par rapport aux prisonniers d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani.
Voilà, donc Jean-Marc Rouillant toujours en prison à Marseille, malade, a priori comme un chien. Georges Cipriani toujours en prison aussi, et qui s'est vu refuser récemment sa nouvelle demande de conditionnel après 23 ans de placard. Pour l'occasion, il y aura un événement qui va être organisé à Marseille, comme il y a maintenant 4 ans. C'est ça pour la 20e anniversaire de leur incarcération. Donc, qui avait eu lieu en février 87. Et on avait fait pour le coup une campagne de demande de libération des militants d'Action Directe en février, c'était à février 2007. Depuis, Joëlle Aubron est morte. Et Nathalie Nigon va, comme elle peut, en conditionnel médical. Pour ce qui est de Georges Cipriani, après 23 ans, il entend bien au plus vite sortir et Jean-Marc Rouillant se faire soigner. Pour l'occasion, donc, on va organiser avec Défense Active de Paris et d'autres organisations un nouveau début de campagne de libération pour les militants d'Action Directe, donc en soi Jean-Marc Rouillant et Georges Cipriani encore incarcérés, et la fin des conditions générales aussi pour Nathalie Ménigon. Et Régis Schlecher, qui est aussi sorti depuis peu et toujours en semi-liberté. Donc ce débat aura lieu en présence de Elliot Bess et sûrement de plein d'autres personnes comme Jean Alphen, tous les deux donc membres d'Action Directe. Il y aura sûrement Annelise Benoît, qui était à l'époque co-écrivain dans un journal qui s'appelait International, pour lequel elle avait fait de la prison pour des écrits. Notamment la parution des différentes revendications des militants d'Action Directe à l'époque, au même titre donc Elliot qui avait fait plus de 4 ans de prison. Donc pour parler de ça, il y aura sûrement une professionnelle de la sémantique, à savoir qu'effectivement Jean-Marc Rouillant est retombé en prison pour un mais de trop.
Dans le texte qu'il avait écrit à l'Express, en fait, ils ont analysé le texte, ils se sont rendu compte qu'à un mot près, son incarcération tenait à un mot près qui était je peux pas en parler, mais.
Et donc à savoir que on a plus ou moins mis ce rendez-vous sous l'angle de la parole. Donc on a plus ou moins appelé ça histoire sans parole, de celles qu'on veut leur faire dire et qui diront jamais, et de celles qu'ils ont tellement envie de dire et qui pourront jamais dire. Donc il y a un petit texte qui a été écrit, c'est un des premiers qui a donc été signé Elliot, parce que c'est elle qui l'a écrit, et donc on vous en lira sûrement d'autres à ce sujet. Il y a un an, la justice d'État a renvoyé Jean-Marc Rouillant en prison. Sorti le 17 décembre 2007 en semi-liberté, il travaillait la journée chez Agone, un éditeur notamment de la majorité de ses manuscrits. Et il rentrait le soir au Baumettes, dans l'espace réservé aux semi-enfermés. Une espèce d'exercice improbable, mais accompli tout de même, d'une espèce de transformation quotidienne d'un homme dit libre en prisonnier. Militant d'Action Directe, arrêté le 12 février 1987, il avait passé près de 21 ans en prison. 10 mois après cette sortie panachée, il accorde une interview à un jeune journaliste qui lui pose la rituelle question des actes passés. Il répond « Je n'ai pas le droit d'en parler, point, mais… » Une réponse quand même pour la justice. Il a dérogé aux impératifs de sa semi-liberté. Ne pas parler des événements qui l'ont mené à être jugé et condamné. Et hop, retour à la case départ. Ce drôle de jeu de loi intéresse les médias qui s'emparent de l'affaire, rendant sensationnel un article qui aurait pu passer inaperçu. En mars, les médecins découvrent chez Jean-Marc Trouillant une maladie auto-immune, évolutive et orpheline, dite de Chester-Gellheim. Excusez-moi pour lui. Toutes les médications envisageables sont expérimentales, donc inapplicables en prison. Car les prisonniers ne sont heureusement pas encore des rats de laboratoire. Après son passage à l'hôpital, la solution de la pénitentiaire est de ne pas prendre en compte la pathologie. Jean-Marc a pourtant donné son accord pour des soins expérimentaux appliqués par des spécialistes qui sont prêts à le recevoir dans leur service. Alors que fait Jean-Marc Rouillant à la maison d'arrêt depuis plus d'un an sans surveillance médicale adaptée ? Après avoir été 10 mois en semi-liberté sans incident notable, que quelques paroles jetées sur une page de journal. De merde, ça c'est 2 mois. L'État français a-t-il besoin de l'image du terroriste pour détourner l'attention de la crise économique ou pour faire peur aux éventuels insurrectionnels en herbe? A-t-il besoin de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la prison est à court, moyen ou long terme une fabrique de mort? Donc le 21 novembre, à Marseille, à 16h, à l'Équitable Café 56...
Grand Julien.
Re-L'Équitable Café.
Les camarades et groupes de soutien ou de défense des prisonniers d'Action Directe et tous ceux qui voudront répondre à cet appel se réuniront autour du thème « Histoire sans parole ». Donc liberté pour Jean-Marc Rouillant et pour Georges Cipriani, lui aussi encore en prison. La cour d'appel lui a refusé sa semi-liberté. Signé défense active. Et donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, on vous en parle souvent, parce qu'effectivement, il se trouve que en dehors de longues peines, comme tous les droits communs, les prisonniers politiques se retrouvent avec des perpétuités à pu en finir. Notamment parce qu'ils ne renient pas, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire les mots qu'on veut leur faire dire.
Sachant qu'on le demande à personne d'autre, pourquoi on leur demanderait à eux ?
En plus, à savoir qu'ils sont souvent les victimes des QI et diverses méthodes de torture blanche, qui rend leurs conditions de détention encore plus dures. Souvent accompagnés, il faut se le rappeler, pour les prisonniers d'Action Directe, de 2 grèves de la faim sévère, d'une de quasi 70 jours et une un peu plus courte, qui laissent inévitablement beaucoup de séquelles. Donc notre soutien reste indéfectible envers ces prisonniers et notre demande est sans condition. Pour vous faire sentir un peu plus ce qui peut être ce type d'enfermement.
Une petite torture blanche. Ouais.
Et on pense toujours une larme à l'œil à nos amis de la RAF qui eux ne sont pour certains comme Bader et Meinhof plus de ce monde. Meinhof, si tu nous écoutes, tu peux appeler. On va écouter un texte où elle explique un peu les ravages et les séquelles que peuvent laisser les quartiers d'isolement. Voilà, à toi, Loïc.
Sentir ta tête exploser, sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux, sentir ta moelle épinière te remonter au cerveau à force d'être comprimée, sentir ton cerveau comme un fruit sec, se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé, sentir qu'on te vole tes associations d'idées, sentir ton âme pisser de ton corps comme si tu n'arrivais plus à fixer l'eau, sentir la cellule bouger. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la cellule bouge. L'après-midi, quand il y a du soleil, ça s'arrête tout d'un coup. Mais elle bouge toujours, tu n'arrives pas à te dépêtrer de cette sensation. Impossible de savoir si tu trembles de froid ou de fièvre, impossible de t'expliquer pourquoi tu trembles, pourquoi tu gèles. Pour parler de façon simplement audible, il te faut faire effort. Il faut presque hurler, comme pour parler très fort, te sentir devenir muette. Impossible de te rappeler le sens des mots, sinon très vaguement. Les sifflantes, supplices intolérables. Les gardiens, les visites, la cour, réalité de celluloïdes, maux de tête, flash. Ne plus maîtriser la construction des phrases, la grammaire, la syntaxe. Si tu écris au bout de 2 lignes, impossible de te rappeler le début de la première. Sentir que tu te consumes au-dedans. Sentir que si tu étais libéré, dire ce qu'il en est, ce serait exactement comme jeter de l'eau bouillante à la gueule des autres et les ébouillanter, les défigurer à vie. Une agressivité folle sans exutoire, c'est le pire. Être persuadé que tu n'as pas la moindre chance de t'en tirer est impossible de faire entendre ça. Des visites ? Il ne te reste rien. Une demi-heure après, impossible de te rappeler, sauf de façon mécanique, si ça a eu lieu aujourd'hui ou la semaine dernière. Le bain de la semaine, c'est la chance de se laisser aller, de reprendre des forces pour un bref instant, pour quelques heures. Sentir le temps et l'espace irrémédiablement imbriqués l'un dans l'autre et te sentir vaciller, piégé dans un labyrinthe de glace déformante. Et après, la terrible euphorie d'entendre quelque chose qui différencie le jour de la nuit acoustique. Sentir que maintenant le temps repart, le cerveau se dilate, la moelle épinière se remet en place pour des semaines. Et te sentir comme dépiauté, bourdonnement d'oreilles, et au réveil, te sentir comme roué de coups et bouger au ralenti. Te sentir comme enfermé dans une cuve plombée et sous vide, et après choc, comme si une plaque de fer te tombait sur la tête, comparaison, concepts qui te viennent à l'esprit, aux prises avec un fauve psychique. Tambourinage impitoyable, comme dans une fusée en pleine accélération, où les types sont écrasés sous la vitesse. La colonie pénitentiaire de Kafka, le type sous une planche à clous et le grand 8 sans arrêt. Quant à la radio, ça permet un minimum de détente, comme un coup de frein, on chute de 240 à 120.
Sans exception, parle d'émeutes, de jeunesse enragée, de climat insurrectionnel sans précédent depuis mai 68.
C'est pas possible. Mais avant toute chose, comment en est-on arrivé là?
Permettez-moi d'abord de dire que les violences auxquelles on a assisté ces derniers jours sont inacceptables. Qu'il s'agisse de la multiplication d'actes de destruction, d'écoles, de gymnases, des milliers de voitures incendiées. Tout ceci est inacceptable et inexcusable. La réponse de l'État, je le dis ce soir, avec force, sera ferme.
Sur une des chaînes, et donc maintenant on va vous passer un petit montage qui a été fait par une émission de radio genevoise sur Radio Usine, donc à Genève en Suisse, qui s'appelle De bruit et de fureur, qui est écoutable d'ailleurs sur le site de Radio Usine tous les lundis à 18h et que je conseille à tout le monde d'écouter en direct. Et voilà, qui ont fait un petit montage sur le traitement médiatico-policier par rapport à des événements qui sont passés à Poitiers. Et donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup pris dans les médias français, toutes les conneries qui ont pu être entendues, dites et entendues. Et c'est un peu mis en valeur avec des textes qui sont tirés d'un film, une version française du film La bataille de Seattle, avec tout ce que les versions françaises, traduction, peuvent déblatérer comme merde et comme mauvaise traduction. Donc voilà, c'était juste pour vous resituer, et ça parle des amendes de Poitiers, et après on en fera un petit mot, et ça sera la dernière fois qu'on en parlera, surtout par rapport au peu qui s'est passé et aux beaucoup de merdes qui sont sorties après ça.
Voilà, et donc si vous voulez écouter les autres sons, c'est sur bruitetfureur.info, vous tapez ça sur Google, ouais. Et vous arrivez, enfin, sur votre moteur de recherche, et vous arriverez donc sur les restes des émissions.
Une très bonne émission.
Un petit 15 minutes spécial pour vous, c'est du lourd.
de l'impossible.
Chronique d'impossible.
C'est pas le con, je sais pas nager.
Tu sais pas nager?
Mais non.
T'aurais jamais dû me dire.
Pourquoi?
Parce que je vais te pousser.
Mais non.
Mais si. Je trouve que vous avez une tête de comptable.
Je suis comptable.
Ah non, merde.
Ça va pas recommencer. Y en a marre des plaintes, y en a marre des cauchemars. J'aimerais bien vivre un petit peu normalement, moi. 5 minutes.
Nous pensons que tous les manifestants vont se regrouper ici.
Combien de manifestants attendez-vous?
Plusieurs milliers. Il a fallu 200 pour convaincre...
Les sortes-feu...
Et nous y sommes arrivés!
Il y a 13 intersections importantes dans le centre-ville. Donc, chaque groupe d'activistes va faire en sorte de bloquer une de ces zones. Et on bloque comment?
En étant non-violent.
C'est exact. Tu sais ce qui va se passer si vous vous attaquez à la ville?
Bah, je crois qu'on va déclencher une émeute.
C'est bon, on y va.
Des manifestants bloquent tous les carrefours de la ville.
La police ne peut rien faire.
Personne n'en.
Si vous faites intervenir la garde nationale, toute la communauté va s'affoler.
Dans une
Radio Sam, on est face à 30 000 manifestants. Nos gars passent un mauvais quart d'heure.
Nerveux, Johnson.
T'es con quoi? Tu gâches tout le boulot qu'on a fait, ça avait marché.
Ah ouais? Et demain?
Manifestants.
Les rues de Seattle sombrent dans le chaos. Mais qu'est-ce qui se passe?
Je refuse d'envoyer du gaz sur mes concitoyens, vous me comprenez?
Je crois que malheureusement nous n'avons pas le choix.
Dans l'actualité également, cette explosion de violence hier à Poitiers, en marge d'un festival de spectacles de rue, près de 300 militants se réclamant d'un collectif anticarcéral ont investi le centre-ville, masqué et cagoulé. Ils se sont alors attaqués à plusieurs bâtiments. 18 personnes ont été interpellées.
Et en ligne avec nous, comme promis, le criminologue Alain Bauer. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'Observatoire national de la délinquance. Merci de nous répondre. Je crois que vous êtes du côté de Singapour ce matin, c'est ça?
Oui, il y a l'Assemblée générale d'Interpol et donc vous me trouvez à l'heure du déjeuner.
Voilà, vous ne pouviez pas rater ça. On va revenir avec vous sur ces violences du week-end à Poitiers, ces groupes d'ultra-gauche très organisés. On avait vu un tel phénomène il y a quelques mois à Strasbourg en marge du sommet de l'OTAN. On avait parlé à l'époque des Black Blocs, ces groupuscules importés d'Allemagne. Est-ce que pour vous, il s'agit du même phénomène aujourd'hui?
D'abord, c'est une tradition historique en France que d'avoir des jacqueries désormais urbaines, mais on les a eues avec les agriculteurs, les pêcheurs, en partie les transporteurs routiers, donc ça fait partie de la culture nationale. Ensuite, des violences contre les policiers dans la série Je m'affronte à l'autorité, et aussi des dégradations et des agressions alors sur les magasins et le mobilier urbain, mais aussi parfois sur les manifestants eux-mêmes. Ce n'est pas ce cas dans l'affaire de Poitiers, mais il faut bien comprendre la diversité des problématiques qui sont désormais rencontrées.
Les forces de police, qui n'avaient pas prévu un tel déchaînement de violence, tentent de faire face.
C'est les CRS qui nous l'ont donné. On l'a donné à la petite vendeuse qui était là, il dit, tenez, encore qu'ils attaquent, qu'ils vous voulaient un breton pour vous défendre, mais vous pensez. Des cas comme ça, il vaut mieux rien faire. Hein.
Visage dissimulé, vêtements noirs et projectiles à la main. Ce sont les membres d'un Black Bloc, un groupuscule de manifestants ultra-violents. Hier, pendant plusieurs heures, ils ont semé la panique. Leur cible, les forces de l'ordre, qui ripostent à coups de flashball. Mais ils ont aussi vandalisé et incendié plusieurs bâtiments au grand désespoir des manifestants pacifistes.
On ne peut rien faire. On risquerait même de se faire agresser nous-mêmes.
Depuis 10 ans, les Black Blocs perturbent la tenue de chaque sommet international, comme ici, à Göteborg en 2001. Cette forme de contestation est née en Allemagne dans les années 80. Pas d'existence légale ni de leader. Proches des anarchistes, ils se regroupent de façon spontanée sur les manifestations.
Ce sont des gens qui s'agglomèrent par réseau. Donc il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'organisation, il y a simplement des espèces de convergence.
En fin d'après-midi, la police, à la recherche de casseurs, filtre la dispersion des derniers manifestants. Quelques mètres avant ce barrage, voici ce que nous découvrons. Une multitude de vêtements noirs et des protège-tibias. Les Black Blocs ont tout abandonné sur place. La plupart sont probablement sortis sans être inquiétés. Sur 2000 casseurs annoncés, la police a procédé à 300 interpellations.
Soudain, ils s'en prennent violemment au commerce. Ils détruisent une vingtaine de vitrines. C'est la panique dans le centre-ville.
Vous avez eu peur?
Bah, qui a pas peur quand on a ces gars-là, hein?
Là, c'est des fous, les gars. C'est vraiment des fous.
Hein. Émeute de la gauche extrême à Poitiers, d'un mot.
Alors, la route de Montserrat, lieu où c'est très, très grave. Le maire de Poitiers, député maire de Poitiers, est un de mes amis, Alain Claise. Et il a été, comme nous tous, épouvanté par ce qui s'est passé. Ce sont des bandes armées, etc. Alors, j'ai entendu que monsieur le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place. Je voudrais qu'il réponde à une question. Comment, alors que 300 personnes plus se réunissent sur place avec des barres de fer par un complot qui est monté, comment se fait-il que les services ne soient pas alertés et qu'on ne prenne pas les dispositions pour lutter contre ça? Il faut lutter avec la plus extrême énergie contre ces bandes.
La question de Laurent Fabius à Brice Hortefeux.
Bonsoir Brice Hortefeux.
Bonsoir.
Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, merci d'être en direct sur France Info. On a beaucoup de sujets sur lesquels on aimerait vous entendre. Commençons peut-être par cette dernière information. Un gendarme meurt fauché par un automobiliste lors d'un contrôle routier dans l'Yonne. Vous en savez un petit peu plus?
L'ancien Premier ministre Laurent Fabius est mort. Il n'est pas question de ressusciter.
Brice Hortefeux, très vite parce que l'heure tourne. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des préfets qui viennent de se regrouper en une sorte de syndicat?
Oh, c'est une initiative bien connue puisque...
Merci beaucoup, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'Outre-mer.
C'est la quatrième cache découverte en quelques heures. Les policiers ont mis la main sur des postiches, des marteaux, des burins, des massettes, des explosifs. Visiblement, certains manifestants entendaient poursuivre les dégradations au cours de la nuit, de samedi à dimanche.
Dans la cour du commissariat, un policier présente au ministre de l'Intérieur l'arsenal utilisé samedi par les casseurs. Des masses, des fumigènes ou encore des cocktails Molotov. Brice Hortefeux n'en revient pas.
Sur la façade de la Banque de France, le tag « mort aux vaches » disparaît peu à peu. Christophe, un employé de la ville.
C'est un genre de sableuse. C'est de l'air avec le produit. Ah ben ça fait une pierre très lisse, nickel. Hein.
La violence des manifestants nous a plus ou moins débordés au départ. Quoi. Nous, fonctionnaires de police à Poitiers, on pense qu'il y a longtemps qu'ils avaient prévu leur manifestation, leur mouvement, hein, vu l'organisation qu'ils avaient mise en place. C'est de la bande organisée, on peut appeler ça comme ça. Hein.
Dans le quartier de l'église Notre-Dame, une vingtaine de vitrines sont brisées. Julie travaille au Crédit Agricole, très touchée. Les trois distributeurs de billets sont hors d'usage.
Les banques ont peut-être de l'argent, mais c'est notre lieu de travail, quoi. C'est une agression, quoi.
Qui appartiennent à une mouvance anarchiste, on va dire.
L'abribus est intact. À côté, un panneau publicitaire est brisé. Un commerce d'objets fantaisie est touché, mais pas la Banque Populaire, sans mettre plus loin. Mathieu Cognard, de l'Association des commerçants de Poitiers.
Donc, qui était sur le site de Poitiers, quoi. Mais en aucun cas, on pensait qu'ils allaient s'organiser aussi bien et qu'ils allaient être aussi violents, quoi.
Il n'y a pas eu de logique sur le fait de casser telle ou telle boutique par rapport à d'autres. Ils se sont vraiment acharnés sur le Crédit Agricole, alors que d'autres banques, il n'y a rien eu. Donc, pour moi, c'est incompréhensible.
Aujourd'hui, l'Association des commerçants demande aux autorités une simplification des dépôts de plaintes afin d'accélérer les démarches auprès des assureurs.
Bah, le problème, c'est qu'après, il y a toujours un manque d'effectifs, quoi. Mais je pense qu'à l'avenir, avec un peu plus de vigilance, un peu plus d'effectifs, on peut toujours essayer d'enrayer ce genre de mouvement.
Ils avaient anticipé, puisque...
Bien anticipé. On va vous épargner les 7 minutes de plus. Vous pouvez les avoir sur bruitfureur.info. Donc ça vous donne une vague idée de toute la merde qu'on peut entendre. Et si ça peut vous donner aussi l'envie d'arrêter d'écouter toutes leurs conneries, ça serait pas mal. Ils sont bien amusés. Malheureusement, Fabius n'est pas mort. Mais dans le tas de la merde envoyée, ça pouvait très très bien passer.
Voilà un petit montage qu'on a bien aimé parce qu'il tourne bien la dérision, l'exagération qu'il y a eu autour de cette affaire, entre guillemets. Quoi.
Et ça va jusqu'à, on vous passera une autre fois, jusqu'à un montage qui a été fait par rapport à cette fameuse émission locale, série télévisée à la con qui est Plus belle la vie, où ils en ont profité pour sortir 5 épisodes sur le spectre de l'ultra-gauche qui dit autant de conneries et qui fait autant de manipulations et qu'on vous passera dans une prochaine émission.
Donc voilà, on vous passe les explosifs, les postiches, les machins et je sais pas quoi qui tentent à effectivement nous faire imaginer un terrible fléau qui pourrait s'abattre tel des criquets sur notre vaste pays. Et donc pour revenir sur l'histoire de Plus belle la lutte armée, Plus belle la vie, excusez-moi, c'était donc vous pouvez l'écouter aussi dans la même émission, celle du 18 octobre, donc qui est en fait le dimanche, contrairement à ce que notre camarade a dit, c'est pas le lundi, c'est le dimanche. Vous pouvez l'avoir donc sur internet en direct aussi. C'est Radio Usine
de bruit et de fureur.
Donc voilà, on voulait vraiment insister. Comme on l'a dit, c'est la dernière fois qu'on parlera de ce qui s'est passé à Poitiers parce qu'ici n'est pas passé grand chose, dans tous les cas bien moins que tout ce qui a été raconté. Et que voilà, et que on vous entendrait dans tous les cas sur les ondes de Radio Galère parler de cette émission de radio suisse Bruit et Fureur, qui font un très très bon boulot.
Et pour parler de galère, et justement enchaîner sur le fait qu'on rappelle que Radio Galère est dans la galère et que tous les moyens sont bons pour les aider financièrement ou autre, avec ses petits bras et sa petite tête, et financièrement aussi. Donc il y a des histoires d'échecs près de 200 euros, mais si vous n'avez pas 200 euros, ben, même 5 euros, 10 euros, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, et on vous en reparlera au fil des émissions, parce qu'il va se passer peut-être quelques mois de solidarité avec la radio.
Voilà. Donc, pour terminer,
on vous rappelle rendez-vous 19h56
cours Julien
au café équitable
un débat sur les prisons et les longues peines,
et où donc seront présents
Afed, Ben Othman
et Catherine
Charles
Kider.
Voilà, ouais. Donc à ne pas manquer, et bien sûr on compte aussi sur votre soutien et votre présence le 21 novembre au même lieu à 16h pour
de nouvelles perspectives de lutte.
Voilà, et un débat sur les mots, la parole, ce qui est dit et pas dit.
La semaine prochaine, c'est pas nous, on revient dans 2 semaines.
Et non, ouais, ne pleurez pas, on est là dans 2 semaines. Voilà, attends, toujours la haine des chaînes et de ce monde de merde.
Salut à tous.
À bientôt, ciao.